CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour.
Je vais vous proposer qu'on fasse le circuit que font les animaux. On a nettoyé, c'est propre. Vous n'avez pas besoin de vous retenir rien, il n'y a pas de problème.
Bon, ça, si tu viens à la campagne, on ne peut pas te salir, c'est pas la
voilà, non, mais les odeurs, elles y sont, hein, ça. Voilà. Ici, ce lieu, c'est les premiers bâtiments. C'est les bâtiments de mes grands-parents. Hein, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait que ces deux étables.
Où il y avait, comme dans toutes les exploitations, il y avait entre 15 et 20 vaches. Voilà, ça c'était les bâtiments anciens qu'on a un peu transformés, aménagés, qu'on se sert que pour la rotation des animaux.
Aujourd'hui, il y a combien de vaches ?
Ici, sur cette exploitation, sur ce site, on a en rotation 200 animaux. Il en rentre toutes les semaines, il en sort toutes les semaines. Voilà. Parce que c'est toutes les bêtes qui passent sur ce site, ce sont des bêtes qui sont destinées ou à l'abattoir, ou à l'abattage, ou à l'exportation. À l'exportation dans des jeunes bovins.
Vous l'avez compris, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on déguste ? Part en reportage à l'occasion des rencontres Made in Viande, une opération nationale organisée par l'interprofessionnel des viandes. Et avec Pascal Olivier, ce matin, nous sommes allés visiter l'exploitation de monsieur Isolin, Jean-Pierre, hein, je crois.
Jean-Pierre Isolin, qui est éleveur engraisseur de Blonde d'Aquitaine à Mirabel. Donc on n'est pas allé très très loin. Et on a vu ça, c'était quand même impressionnant.
Voilà, et donc on va vous proposer tout au long de cette émission de visiter son exploitation, mais aussi de visiter son atelier de découpe, parce que ce monsieur, vous l'entendrez, il est éleveur, producteur de viande de père en fils et de grand-père en petit-fils. Et pour, comment on dit
valoriser les avants, les avants, parce qu'il vendait surtout les arrières au boucher, les avants ils restaient comme ça, et donc pour valoriser les avants, il a créé un atelier de découpe et il se définit comme un artisan découpeur, un artisan boucher. Enfin, il ne vend qu'en gros et qu'en demi-gros, donc n'y allez pas pour aller acheter une entrecôte, mais par contre vous verrez le personnage, il est vraiment super.
Vous êtes fait un reportage sur la bête carrément.
Reportage sur la bête. Vous entendrez également durant ce reportage d'autres personnes, comme par exemple Karen Sakiviste. Ça y est, m'étais dit que je dirais correctement son nom. Ouais. Mais c'est celle qui s'occupe justement d'organiser un petit peu toute cette journée.
Interbev, donc c'est l'interprofession bétail et viande pour de Midi-Pyrénées.
Bon, ça nous a donné l'occasion de voir les bêtes sur pied et puis de déguster aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour avec Pascal Olivier, vous l'avez déjà entendu. Georges Bonfils,
présent.
Bonjour.
Il est là aussi.
Avec du jazz.
Avec du jazz, comme d'habitude, mais du jazz classique aujourd'hui.
D'accord.
C'est-à-dire, ça va être très spécial, c'est la musique classique jouée par des jazzmen.
Aïe.
Bon, on a mis longtemps à s'habituer au jazz,
C'est peut-être parce que justement dans certains élevages on fait écouter de la musique classique aux bêtes, hein, ça doit être ça. Ah, il est toujours sur le fil, ce genre. Gaël ?
Il y a plein de choses aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un personnage très connu, c'est aussi Halloween, et puis on fera des petites recettes. Alors peut-être une recette un peu surprenante, puisque il y aura de la chauve-souris.
Oui, parce que nous on va proposer des recettes autour du bif.
Moi sur des marchés en Asie, j'ai vu des brochettes de chauve-souris.
Ouais, t'as goûté déjà ?
Non, j'ai pas goûté par contre. Mais j'aurais bien tenté.
Je vous proposerai ma recette du steak tartare.
Moi, côte de bœuf.
Moi, la joue de bœuf.
Et toi, purée.
Et puis steak haché et purée, c'est bien.
Ouais,
moi, j'ai des enfants, moi, alors.
Steak haché congelé, hein, sous plastique. Hein.
Ah oui, les enfants mangent pas autre chose.
Bon, d'accord, très bien.
C'est qu'est-ce qu'on déguste, et ça commence comme ça. On aura au téléphone le patron des bouchers du Tarn-et-Garonne, et puis aussi, bien sûr, un caviste, celui de Moissac, qui nous parlera du vin du mois qu'on a déjà dégusté et qu'on trouve très bien.
Il est très très bon. D'ailleurs, on y va.
Santé.
Don't you tell me, don't you, I'm on my only violence. Don't you tell me no truth, they're just all of your lies. Don't you tell me no truth, I want all of your lies. Well, well, so give me all of your lies, give me all of your lies, give me all of your lies.
Voilà une musique qui a plu à George, c'était Jamie and Commons, Rumble and Sway.
Moi, surtout le titre m'a plu.
Tu peux nous le répéter, George?
Bien sûr.
Et donc, du 25 octobre à aujourd'hui, au 31 octobre, le InterBev, qui est l'interprofessionnel, l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, organisait une grande manifestation nationale qui s'appelait les rencontres Made in Viande. Ça permettait, le but c'était d'ouvrir la filière à tout le monde. Fallait juste s'inscrire sur leur site et puis on allait visiter des éleveurs, des ateliers de découpe, des abattoirs, des bouchers, des professionnels, alors aussi bien des artisans que dans des grandes surfaces. En Tarn-et-Garonne, ici, il y avait donc deux éleveurs qui proposaient proposaient une visite. Nous, on est allés chez Monsieur Jean-Pierre Issolan, donc à Mirabel. Il y avait donc des bouchers, Jean-Marie Chaumont, qui est le président du syndicat des bouchers Tarn-et-Garonne, qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure. On pouvait aussi aller rencontrer les bouchers chez Auchan ou à Grandfrais. Et donc, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la filière viande, qui est une, c'est plus de un demi million de professionnels qui travaillent, tant des éleveurs que des découpeurs, que des commerciaux, etc., etc. Donc c'est une grosse filière.
Et nous, donc ce matin, on a fait d'abord la visite de l'exploitation de Monsieur Issolin, où il y a quelques 250 vaches qui
vaches et veaux
qui sont à l'engraissement. Et puis ensuite, on est allé visiter son atelier de découpe qui distribue en demi-gros et gros, uniquement à des collectivités, des restaurants de collectivités, et puis également
des bouchers, maisons de retraite, des restos, municipaux, aussi bien la mairie de Montauban que je sais plus à Saint-Antonin. Ouais.
Et Monsieur Issolin, il a vu changer cette profession puisque lui il est né dedans, comme je disais tout à l'heure, son père l'était, et lui-même aujourd'hui, il est comment on dit ? Éleveur de viande.
On peut dire éleveur. Il est à la fois éleveur engraisseur chevillard, mais également artisan du goût. Artisan, il fabrique de la bonne viande. Voilà.
Il faut savoir que l'élevage a beaucoup changé dans 50 ans. Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui.
J'ai commencé ce travail très jeune, monsieur me connaît très bien. Et mais avant, la génération avant, c'est-à-dire il y a 50-60 ans, a commencé l'exportation. Avant, ça ne se faisait pas. Toutes les vaches qui faisaient un veau étaient destinées à la boucherie française. Bon, après, il y a eu l'export s'est ouvert en premier l'Italie, et ils ont demandé des jeunes veaux pour faire du babi chez eux, parce qu'ils n'ont pas de naisseurs. Il faut savoir que l'Italie, c'est un petit pays avec un petit potentiel de terre, donc ils ont pas de vaches. Ils en ont quelques-unes, mais ils n'en ont pas beaucoup. Ils ont un potentiel de consommation, mais pas de production. Ils viennent en France pour acheter ces jeunes veaux pour faire du babi. Et là, le marché a évolué, c'est-à-dire que les veaux qui naissaient de nos vaches race à viande, sont partis sur l'export, mais avant, ils étaient, je me répète, étaient destinés à la boucherie. Et les veaux de boucherie en France ont été remplacés par les veaux laitiers, et qui ont été faits en industrie, moi j'appelle ça en industrie, c'est-à-dire en caisse, voilà, ça a changé aussi. Il y a eu une très grande mutation dans 50 ans de la façon de produire.
Alors évidemment, le métier a beaucoup changé, mais si monsieur Issolin parle d'industrie, c'est que lui, il considère aujourd'hui qu'il est dans l'artisanat. Et on continuera, et vous l'entendrez, de visiter son exploitation et puis de discuter avec lui, puis avec les gens qu'on a rencontrés tout au long de cette matinée qui s'est éternisée jusqu'à 14h ou 15h aujourd'hui. Oui, parce qu'Olivier, c'est ça, puisqu'il y avait une dégustation.
Ils sont encore à l'apéro, là.
Je crois qu'ils y sont encore. Nous, il a fallu qu'on rentre. Ouais, yeah. Peut-être un peu de jazz.
Un petit peu de jazz. Aujourd'hui, c'est du jazz et du classique. C'est un orchestre qui s'appelle Classical Jazz Quartet, qui a repris des thèmes de Rachmaninoff et d'autres de Bach, qui les a retravaillés pour les jouer en jazz. Là, j'ai choisi de vous présenter un disque de Bach. Et le thème là que je vais vous donner s'appelle Jésus Joy of Men Desiring. Facile à... C'est un thème que tout le monde connaît, mais ne connaît pas le nom. Il est exposé par la contrebasse de Ron Carter. Il y a Kenny Barron au piano, Lewis Nash à la batterie et Stéphane Harris au vibraphone. Thank you. peu swingé sur du classique. C'est le Classic Jazz Quartet qui revisite Bach.
Qu'est-ce qu'on déguste? Spécial opération Made in Viande. Les rencontres Made in Viande. On s'est rendu avec Pascal Olivier aujourd'hui sur une de ces rencontres. Et donc on distille tout au long de cette émission le reportage que nous avons réalisé ce matin en début d'après-midi chez Monsieur Isolin et à l'atelier de découpe qui s'appelle
Viande Occitane.
Viande Occitane, voilà. Peut-être justement ce serait l'heure là de donner une recette sur la viande de bœuf. Laquelle? Elle est peut-être la tienne, Georges?
Allez, je commence avec la daube de joue de bœuf. Ce qu'il faut faire, c'est faire mariner votre joue de bœuf, bon, 24 heures avant. L'idéal, ça serait de la faire mariner pratiquement une semaine pour qu'elle prenne bien le goût du vin. Donc, vous cherchez un vin rouge bien tannique, bien rouge, costaud.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire avec un Mas des Anges, par exemple.
Par exemple, c'est un petit peu cher, le Mas des Anges. Parce qu'il faut pas un vin d'une qualité exceptionnelle. Même bon vin de pays, bien rustique.
Un Madiran, une chose comme ça.
Un truc comme ça, il faudra bien la faire.
Oui, d'accord. Un Madiran à 4 euros, c'est bon, quoi.
Oui.
On n'en trouve pas, les Madirans à 4
euros. Monsieur, ton or.
Non,
un Cahors. Un Cahors à 2,50
euros. Ça se trouve.
Alors, il faut combien de joues de bœuf par personne?
Il faut 2 joues de bœuf par personne.
Une joue de bœuf par personne.
Par personne, c'est suffisant.
D'accord.
Donc, vous faites un bouquet garni dans vos marinades avec un peu de laurier, puis des graines de poivre. Moi, j'aime bien le poivre moulu et mettre quelques graines de poivre. Bon, vous faites mariner. Et si vous pouvez le plus longtemps possible.
Une carotte, un oignon.
Carotte, oignon, bien sûr, les classiques.
Oui.
Échalotes.
Marinade.
Une bonne marinade.
Bon. Un petit peu de cognac ou un petit peu d'armagnac?
Après, quand on.
D'accord.
Mais arrêtez de parler entre convaincus. Pensez à tous ceux qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est que faire une marinade. Moi, je connais des gens, une marinade, ils font une marinade au ketchup. Et en plus, c'est bon.
Mais en plus, c'est bon, la marinade au ketchup.
Mais bon, alors.
Ça caramélise. Bon.
Voilà. Mais enfin,
alors, Georges.
Après, bon, la veille de faire votre repas, vous sortez votre marinade, vous égouttez vos joues de bœuf, et vous les faites un peu revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, juste un peu doré. Ensuite, vous faites revenir aussi des oignons, puis vous mettez tout ça dans un faitout, vous le recouvrez de marinade, et vous le faites cuire la veille très doucement pendant une heure ou deux. Vous laissez reposer, puis le lendemain, avant de le servir, vous refaites cuire à feu doux, et vous aurez un délice. On va refaire une heure, plus longtemps on fait cuire, mieux c'est, quoi.
Bon, donc on peut le faire réchauffer, on peut le faire cuire et réchauffer plusieurs fois et meilleur.
Ah, j'ai oublié quelque chose, il faut aussi mettre des pieds de cochon pour lier la sauce.
Et pour faire une petite gélatine.
Gélatine, hein. C'est-à-dire que les pieds de cochon, vous les mettez avec votre joue de bœuf dans la marinade 8 jours avant.
Ou pieds de cochon ou pieds de veau.
Ou pieds de veau, mais avec des pieds de cochon, c'est bien.
C'est vraiment un plat de retraité, quoi, parce qu'il faut avoir du temps quand même.
Tu le fais cuire 3 jours avant, oui.
C'est faire mariner quelque chose, il suffit de préparer, de mettre le vin et les ingrédients. Hein. Voilà. Tu la regardes pas mariner.
Mais est-ce qu'on boit le même vin qui a servi pour la marinade?
C'est pas obligatoire.
Non, tu conseilles quoi comme vin, comme ça?
Si t'as pris du Mas des Anges, oui.
Si t'as pris un vin à 4,50 euros, non.
Ouais, voilà. Enfin, il y en a des bons à 4,50 euros.
Tu conseilles quoi, toi, comme vin?
Ce genre, un vin toujours assez charpenté. Bon, des vins de la région vont bien, hein, bon gaillac, style domaine à Chanade, que l'on a goûté il n'y a pas longtemps.
Oui.
Ça va parfaitement avec une...
Un château neuf aussi, ou pas?
Un château neuf aussi, mais bon, c'est un peu plus onéreux.
Un peu plus onéreux, oui. Un bon château neuf, c'est dans les 25 euros.
Un petit vin du Cabardès. Un naturel mystique.
Oui, un naturel mystique, un Cabardès, oui, un truc comme ça. Donc un vin charpenté, ça va très bien.
Ça va parfaitement.
Ok. Joue de bœuf.
Allez, je vous propose d'écouter Karen Sakiewicz. Elle est donc la responsable de l'interprofessionnelle de la viande pour la région Midi-Pyrénées. Et c'est elle qui organisait aujourd'hui dans le coin ces rencontres Made in Viande.
Donc je suis Karen Sakiewicz, la déléguée régionale d'Interbev en région Midi-Pyrénées. Donc Interbev a mis en place cette opération pour la première fois. C'est un événement inédit qui vise en fait à ouvrir chaque maillon de la filière viande, bétail et viande, depuis l'éleveur jusqu'à la distribution et la restauration collective. au grand public, mais enfin au grand public, au public des professionnels qui travaillent de près ou de loin avec cette filière, de manière à montrer les métiers, les expériences, les savoir-faire, de manière aussi à parler d'avenir, parce que sur cette filière, il y a des besoins énormes en termes de recrutement. Donc c'est aussi pouvoir parler d'avenir et de prospective et renforcer les liens entre les maillons de la filière, mais aussi avec le grand public ou les professionnels, tels que sont les acteurs de la restauration collective.
Alors là, justement, qui sont les gens qui sont là aujourd'hui ?
Alors, on a des acheteurs, en fait, de la restauration collective. Il y a des élus, il y a des techniciens de chambre d'agriculture, il y a des responsables de municipalité aussi, hein, qui commandent, en fait, l'acte d'achat des cantines scolaires. Il y a des éleveurs qui sont des partenaires indispensables. Il y a du grand public, je crois savoir aussi, donc qui vient se renseigner, comprendre, savoir ce que c'est qu'un atelier de découpe, comprendre comment on élève ou on engraisse un animal. Il y a des journalistes également, il y a des reporters. Voilà, c'est un petit peu tout le public qu'on trouve aujourd'hui chez Viande Occitane.
Voilà, chez Viande Occitane, nous étions encore en ce tout début d'après-midi pour déguster la viande de chez Monsieur Isola. Mmh. Bon, c'était bien d'ailleurs.
Ah oui, c'était très bon. Bon
les un petit mouvement de panique autour du branchage des plans de char. Là, mais
qu'est-ce que vous avez mangé alors?
Alors
des morceaux de cubes taillés dans le filet.
Un peu comme ce que tu mangerais pour la fondue, tu vois, la fondue savoyarde, tu vois.
Très
ce genre de morceaux là.
Très quoi. Très tendre. Ouais. Vraiment très bien. Alors bon, on aurait pu demander une petite poire ou une petite araignée, mais enfin bon là c'était bien fait. C'était la viande était vraiment très goûteuse, très très fondante, très goûteuse et c'était de la viande qui venait de chez Monsieur Isolan, donc de la blonde d'Aquitaine et
pas maquillée. Hein, pas maquillée.
Pas maquillée. C'était vraiment. C'était bon.
Est-ce que vous mangez les uns et les autres beaucoup de viande justement par semaine, tiens, du bœuf plus particulièrement? Bon, Pascal Olivier, toi, je sais que c'est au moins 4 fois par semaine.
Pas vraiment. Moi, j'aime bien varier les plaisirs, mais je mange pas énormément de viande. Mais bon, je varie les plaisirs entre du bœuf, du veau, du porc.
Non, mais c'est quoi? Combien de
moi,
fois?
Moi, c'est pratiquement tous les jours.
Toi, non, moi, non.
Ouais.
Moi, non.
Toi, tous les jours, t'as de la viande, ouais.
Oui, pratiquement.
Sous quelle forme?
Mais toute forme, ça peut être du bœuf comme du porc. Ou du canard, ça dépend.
Non, moi j'essaye de faire une à deux fois par semaine, mais pas trop. Voilà, histoire de maintenir ma ligne svelte et élégante.
On sait pas le faire, c'est pas la viande qui fait le plus gros tir.
Ouais, mais enfin ça y contribue pas mal.
Bah oui, si on mange 1 kilo de viande et 3 kilos de frites, effectivement là on prend un petit peu de gras. Mais il faut savoir que la consommation de viande ne cesse de diminuer depuis une dizaine d'années en France. La majorité des Français sont des petits consommateurs de viande de boucherie. Ils en mangent en moyenne 3 fois par semaine. Donc, mais là, la consommation de
3 fois par semaine, c'est pas mal quand même.
Ouais,
Gaël, toi.
Ouais, je dois être à 2, moi aussi, une fois ou deux. J'alterne, enfin, pas mal de poissons aussi, et...
Poisson pané, c'était caché.
Voilà. Parce qu'avec la purée, le steak haché, au bout d'un moment, c'est fatigant, donc on fait du poisson pané aussi.
Voilà. Le corps médical conseille de manger 2 fois par semaine de la viande, que ça serait suffisant pour l'organisme.
Oui, voilà.
Qu'il faudrait changer avec du poisson, mais les poissons.
Mais on peut faire
avec
aussi.
Tout ce qui est à l'intérieur des poissons, maintenant.
Non, mais Georges, on peut faire aussi juste légumes. On n'est pas obligé de mettre.
Ouais, mais tu tiens pas toute la journée avec des légumes.
Mais
bien sûr que oui.
Mais bien sûr que tu tiens.
Mais bien sûr
la journée.
Que oui. Ça
dépend où tu le mets, le légume.
Oui, c'est ça.
Non, mais il y a des légumes qui sont très énergisants. Oui, avec qui ça marche très bien.
En tout cas, il faut manger de la viande parce qu'il y a une filière énorme qui est derrière. Il y a besoin, on a estimé en ce moment qu'il y a besoin de plus de 8000 offres d'emploi, 8000 personnes à employer dans la filière viande. Donc bon, on verra tout à l'heure que découper machin etc, c'est pas évident parce que les jeunes ils veulent pas faire ça parce que c'est dur comme métier.
Je crois pas que ce soit le fait que ce soit dur comme métier, c'est qu'il faut se lever tôt en fait et il faut enquiller des heures. Voilà. Après c'est un métier qui reste bien payé. Mais il y a aujourd'hui des bouchers, des découpeurs, etc. aussi, qui sont aux 35 heures.
Ah ben, bien sûr.
Et qui gagnent très bien leur vie. Seulement, les 35 heures, ils ont tendance à les faire aussi quand même.
Entre 5 heures et 7 heures du matin.
Oui, voilà. Non, mais c'est ça. C'est genre la journée continue, quoi. On verra tout à l'heure avec le chef découpeur des ateliers de viande occitane. Qui travaille de 5h à 14h tous les jours, quoi.
Voilà. Et il faut lever à 5h. Enfin, il faut être à 5h au boulot.
Allez, après les infos dans quelques instants, Monsieur Isolin nous racontera comment il fait pour engraissé correctement une vache.
Ces bestiaux.
Il l'emmenait tout doucettement, comme ça, gentiment, en lui racontant de belles histoires jusqu'à l'abattoir.
Mmh. Et la claque, et la claque.
Jusqu'au taureau.
Il leur fait du steak haché, de la purée.
Là, les taureaux, elles les voient pas, hein, celles-ci. Ah non, non. Enfin, elles les ont vues pour certaines avant, hein, puisque on l'a vu ce matin, certaines, pendant l'engraissement.
Elles mettent bas
pendant l'engraissement, certaines. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste, spécial Yande, dans quelques instants.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite.
Il ne faut pas qu'elle soit trop jeune, mais une bête jusqu'à 10 ans, elle va faire plus vite et mieux qu'une bête qui va après. Une bête de 15 ans est une bête vieille. C'est une bête d'âge. Et en rendement en boucherie, c'est important. Parce qu'une bête, le meilleur âge, c'est entre, dans cette race-là, c'est entre 4 ans et 8 ans. Après, les rendements sont différents.
Et là, c'est calculé pour qu'il y ait l'équilibre, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de gras quand même dans une bête.
C'est visuel.
Ouais.
C'est visuel. C'est vous savez faire votre métier. Ouais. Moi, je dois savoir faire le mien.
Donc, quand vous regardez une
vache. Quand je regarde une vache, je sais vous dire si elle est prête à l'abattage ou pas. Ouais. Et bon, chacun son métier. Et voilà.
Voilà, ça c'est
ici,
les paroles.
Elles sont toutes bien avancées.
C'est les paroles de Jean-Pierre Isselin ce matin sur son exploitation située à Mirabel, sur laquelle eh bien il y a quelques 250 têtes hein, qui passent. Alors je suis pas super bon là sur les chiffres. Je sais pas. C'est en permanence, il y a à peu près 250 bêtes.
Hein, à peu près 250 bêtes qui tournent, parce qu'il y a à la fois les veaux qui partent à l'exportation, les bêtes qui sont à l'engraissement, et les reproductrices, parce qu'il y a des mères qui vont faire des petits veaux, etc. C'est un truc qui tourne, ça tourne en circuit fermé.
Essentiellement quasiment. De la blonde d'Aquitaine chez lui.
Oui.
Voilà, mais il y en a d'autres aussi, hein. Il a quelques
alors, il y avait
autres races.
De la bleue d'Auvergne.
Bleu blanc,
je sais plus comment il s'appelle, bleu blanc de Belgique, ou une espèce de truc, un truc un peu gris. Et alors, quand on regarde une vache, on ne la regarde pas dans les yeux, mais on regarde son cul. C'est son cul qui nous dit si elle est prête, si elle est bien engraissée. Et on a vu, par exemple, que des veaux qui avaient été écartés, c'est des veaux avec le cul plat. Et le cul plat, c'est pas un signe de bonne conformation. Donc, ce qu'on appelle les culards. C'est vraiment les vaches ou les veaux qui ont un énorme train arrière, et donc ici on aime le train arrière, on aime le cul.
Nous les clients bouchers qu'on sert, ils veulent de la blonde ou de la limousine. C'est comme les veaux que je vends pour l'export, ils se vendent pas que des blondes d'Aquitaine sur l'Italie, sur l'Espagne, sur le... Mais moi, les clients qui viennent ici, ils viennent pour acheter du blond.
D'accord, c'est la région.
Parce que c'est la région, on est le berceau.
Oui.
Voilà. Et les bouchers, quand ils viennent ici, ils choisissent leurs bêtes ?
Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ils les choisissent à l'abattoir, en carcasse. Ouais. Parce que les bouchers, c'est pareil, le travail des bouchers a beaucoup changé. Autrefois, les bouchers, ils achetaient leurs vaches en campagne, ils la faisaient abattre, et puis ils l'employaient de la tête à la queue. Ils avaient la vente de tous les morceaux. Aujourd'hui, les bouchers, on a des bouchers, même ici en zone rurale, mais surtout comme à Toulouse, du 1er janvier au 31 décembre, ils ne nous achètent que des arrières.
Oui,
pas d'avant, ils n'achètent pas. Et on a construit l'atelier de découpe que vous allez voir, et on vous sert avec ça, justement pour rentabiliser les avants. Et sur les avants de race à viande comme ça, on sort de très bonne viande. Hein.
On en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, hein, les avant, les arrières, et notamment à propos de la Simmental. Pascal Olivier, rappelle-toi, on en avait parlé parce que bien les Allemands qui produisent la vache, la Simmental,
entre autres, oui,
justement gardent l'avant et nous on leur achète l'arrière. Est-ce
oui,
que tu
que
peux
les...
nous rappeler pourquoi ?
En Allemagne, on ne mange que de la viande bouillie et non pas de la viande grillée, et tout l'avant d'un bœuf, hein, ou d'une vache, tout l'avant sert à bouillir. Donc le bas carré, le collet, l'épaule, etc. Et à partir de l'arrière, eh ben, on trouve au milieu les côtes, côte, train de côte, etc., etc., entre côte et jusqu'à l'arrière, ce sont des viandes à griller. Essentiellement, à part après, dans le bas du cul, c'est-à-dire le bas de la jambe, où on a les viandes à bouillir, à braiser pour les pot-au-feu, les gîtes macreuses, etc., etc. Et donc, les Allemands mangent l'avant et on achète l'arrière, et souvent l'avant est valorisé beaucoup mieux en Allemagne, donc l'arrière arrive ici à des prix défiant toute concurrence. Grosso modo, c'est 30% moins cher. Si un boucher m'écoute, il pourrait appeler pour me contredire.
Ah, mais on va appeler le président des bouchers, on lui posera la question.
Mais donc la cimentale en arrière, alors c'est vrai que c'est une viande qui est bien moins chère que la viande française, qui est très goûteuse, qui est très savoureuse. Moi, je la soupçonne d'être un petit peu piquée, engraissée aux hormones, etc.
Ah non, en France, c'est pas possible. Pas. En Europe, enfin, c'est pas possible. Non, pas aux
c'est
hormones.
Une idée.
C'est pas possible.
Mais je sais pas.
C'est pas possible.
Qu'on me contredise, qu'on me dise, tu as raison, mon gars. Enfin, je sais pas. Bon.
En tout cas, c'est pour ça que Jean-Pierre Issolin, chez qui on est aujourd'hui, hein, dans le cadre de cette émission, par la magie des ondes et du reportage, a créé son laboratoire de découpe.
Ton atelier de découpe pour valoriser les avants, puisque
viande occitane.
Viande occitane. Donc lui, il engraisse des vaches entières, bien entendu. Alors des vaches et pas des bœufs, parce que aujourd'hui on dit du bœuf, mais c'est à 99,9%, ce sont des vaches. C'est des vaches de race à viande et non pas des vaches allaitantes ou des vaches qui font du lait, qui sont des vaches de réforme, c'est-à-dire que quand elles ne produisent plus assez de lait, eh ben on les passe à l'abattoir pour en faire du steak haché ou pour en faire de la viande. Là, ce sont des races à viande, donc c'est toujours très important d'avoir ce distinguo. Ce ne sont pas des vieilles
carnes.
Elles
sont élevées, elles sont dans un troupeau pendant 7 à 15 ans dans un troupeau pour être engraissées, hein, tout
voilà.
Simplement.
Entre 4 et 8 ans, il a dit tout à l'heure, c'était le meilleur âge pour avoir la meilleure viande.
Il m'a semblé qu'il y en avait qui allaient jusqu'à 15 ans. Et
ça peut aller jusqu'à 15 ans, mais il t'a dit que le meilleur rendement pour lui, c'était entre 4 et 8 ans, où on avait le meilleur rendement et le meilleur prix pour une vache entière. Donc,
tu sais, j'entends que j'ai pas bien écouté.
Non. Il élève ses bestiaux, il les fait abattre à l'abattoir de Montauban, il a bien précisé. Donc, circuit court, peu de stress pour les animaux, moins de stress pour les animaux, et donc une viande plus tendre. Et elle sort de l'abattoir pour aller avenue du Portugal à Montauban, zone industrielle Alba Sud, pour être découpée. Et là, en fonction des besoins des cuisines centrales, des collectivités, des maisons de retraite, des lycées, des collèges, etc., etc. Et ou des bouchers.
Un petit peu de jazz.
Vous savez, en jazz, on a utilisé beaucoup de musique. Par exemple, les Beatles ont été repris par tous les grands noms du musicien de jazz. Et même les Beatles ont été repris par des musiciens classiques, puisque la musique des Beatles a été jouée en baroque par des grands orchestres. Il y a un disque qui est assez exceptionnel là-dessus. Donc, toutes les musiques peuvent être interprétées de façon différente. Et là, j'ai choisi aujourd'hui The Classica Jazz Quartet. C'est un quartet de jazz avec Kenny Barron au piano qui a repris Bach. Et là, nous écoutons le Brandebergeois Concerto en Fa majeur BMW 1047, deuxième mouvement.
Le numéro 5, lequel
le BMW.
C'est-à-dire que même si les auditeurs sont conquis par ce que présente Georges, ils ne se rappelleront jamais du titre.
Attends,
le
Brandebourgeois BMW.
Non, c'est le numéro 2, c'est pas le numéro 5.
Allez, envoie-le.
Dans ma Benz.
Thank you.
sur la basse de Ron Carter, on va se séparer du classical jazz quartet avec Lewis Nash à la batterie, Kenny Barron au piano et Stéphane Harris au vibraphone du bac revu et corrigé par les Jazzmen.
Ça swing quand même, hein.
Ça swing d'enfer.
Oui, c'est bien.
Partez à la découverte des hommes et des femmes d'une filière d'exception. C'est le slogan des rencontres Made in Viande organisées par l'interprofessionnel de la viande.
Oui, Interbelle.
Et nous, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a décidé de partir à la découverte de cette filière.
Bah oui.
Et on vous le fait, on vous en fait profiter tout au long de cette émission par le biais de reportages et de rencontres en direct, comme celle que nous avons maintenant par téléphone avec, alors moi je l'appelle pour rigoler, le patron des bouchers du Tarn-et-Garonne.
Jean-Marie Chaumont, qui est président du syndicat des artisans bouchers de Tarn-et-Garonne.
Donc voilà. Jean-Marie, bonjour.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très très bien.
Alors, comment quel bilan vous tirez de cette journée Made in Viande, vous y participiez, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Donc, dès ce matin, nous avons organisé des créneaux horaires à la tranche d'une heure à 30 à 2 heures où on accueillait le public, client ou personne qui, par la voix de la presse, savait que nous participions à cette opération. Donc, une fois équipé d'une jolie correspondant aux normes d'hygiène, rentrer avec nous dans les laboratoires était vraiment impliqué dans la façon et voyez comment nous préparons au quotidien la viande pour les satisfaire au maximum. Donc, on leur expliquait notre façon d'acheter, nos choix de viande, pourquoi nous travaillons une race plus qu'une autre. Donc, voilà, ils ont vraiment vécu ce qu'on fait au quotidien pour les satisfaire au maximum.
Comment se porte la profession aujourd'hui?
Alors la profession pas plus mal qu'il y a 2, 3 ou 4 ans, si ce n'est la crise qui traverse le pays, donc qui nous touche aussi un petit peu, hein. Peut-être un petit peu moins que les métiers non alimentaires, puisque malgré tout il faut manger. On s'adapte à la clientèle, on propose des prix attractifs, dès qu'on peut faire un geste vis-à-vis de la clientèle. Et à partir de là, on se porte pas trop trop mal. Les tonnages d'abattage au niveau des abattoirs du département sont stables. Donc ça conforte un petit peu l'analyse que j'en ai moi, au niveau des boutiques.
Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par vos métiers, ce métier de boucher?
Effectivement, après pas mal de battages médiatiques ces dernières années où la boucherie criait haut et fort que nous recrutons toujours. Cette année, il me semble, aux dernières nouvelles, qu'on va avoir 2 groupes d'apprentis au CFA. La profession mobilise encore. Maintenant, à nous de ne pas décevoir les jeunes, parce que c'est quand même un métier difficile. Hein. Donc, les courageux qui se dirigent vers nous, c'est à nous d'être très très près d'eux, leur amener la meilleure des formations qu'ils puissent avoir, avoir des bouchers de qualité, des bouchers bien formés et bien instruits aussi, parce que dans les années à venir, déjà on en souffre un petit peu, on manque de repreneurs.
Alors,
donc il faut vraiment amener les jeunes vers l'excellence pour pouvoir reprendre les affaires qu'il y a de libre ou qui vont se libérer à travers.
Bougez plus trop Jean-Marie, parce que je crois que vous êtes en train de vous déplacer là, et du coup on a un peu tendance à vous perdre.
Non, moi je ne bouge pas, je suis à l'extérieur pour ne pas avoir d'interférence avec les moteurs de mes chambres froides, je ne suis pas...
Alors, bon. Est-ce que les bouchers vont rester bouchers, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont continuer à découper, à préparer de la viande, ou est-ce que ça va devenir des vendeurs de sacs de poches de viande sous poche, quoi, de poches plastiques?
Alors là vous appuyez où ça fait mal, très mal. Donc l'artisan boucher qui se respecte, et c'est là où je demande à la clientèle de bien poser des questions, là où elles se servent, si vraiment leur boucher travaille de la carcasse, parce que l'avenir de la boucherie se joue en ce moment. Les artisans qui font du super boulot se battent au quotidien, sont des fois confrontés à des vendeurs de viande, comme vous appelez ça, des poches sous vide que l'on ouvre et que l'on coupe. Au jour d'aujourd'hui, le boucher doit être capable de faire maturer sa viande, de la faire maturer. L'avant, au moment opportun, c'est lui qui est capable professionnellement de juger si la viande est bonne, extra ou... Je sais pas comment vous dire. Vraiment, le point, c'est comme un fruit, la viande. Hein. Un fruit, il y a un moment donné, sur le mange avant, c'est pas bon.
Finalement, vous vous retrouvez dans la même position, pardon, monsieur le président, mais vous vous retrouvez dans la même position que les restaurateurs qu'on a eu à ce micro il y a pas très très longtemps avec le fameux label fait à la maison, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui des restaurateurs ou des boulangers qui se disent restaurateurs ou qui se disent boulangers ou qui se disent bouchers,
qui ne sont que
des revendeurs finalement, qui achètent en gros sous vide, qui mettent ça dans des beaux étalages devant eux et puis qui font ils se mettent juste un petit calot sur la tête avec un chemisier blanc et puis ils ont le même décorum que chez vous. Comment vous luttez contre ça?
Mais de toute façon, comment on lutte? Il va falloir être uni à un moment donné. Il va falloir se mettre autour de table, les véritables artisans, parce que là, maintenant, on ne parle plus d'un métier, on va parler de l'artisanat. Le véritable artisan, dans n'importe quel métier que ce soit, doit avoir un label, mais un label reconnu, et surtout un label contrôlé. Reconnu est une chose, mais c'est surtout ce que je demande, moi, c'est qu'il soit contrôlé. Il y a trop de boutiques appelées boucheries qui sont des vendeurs de viande.
Et oui.
Moi, aujourd'hui, les boucheries qui travaillent et qui désossent leurs carcasses dans les boucheries artisanales, elles ne le font pas toutes. Alors, je vais faire mal à certains. C'est aux consommateurs à faire le tri. Moi, je vais chez un restaurateur. Si je vois à la carte 15 entrées, 15 viandes, 15 poissons, on n'est pas dupe, vous ne l'êtes pas voir en tant que journaliste. Si le gars, il travaille du frais, il peut pas avoir tout ça à sa disposition.
Mais non, c'est de la poche.
Mais comment le voir chez le boucher? Parce que chez le boucher, c'est...
Je demande aux consommateurs de poser des questions chez leur boucher, n'importe où ils vont, comment ils font, comment ils travaillent. Moi, aujourd'hui, j'ai pas eu peur d'ouvrir mes portes. J'ai pas eu peur de faire rentrer avec des tenues correspondant aux normes d'hygiène des clients dans le magasin, dans mon laboratoire. Il peut très bien y avoir.
Bon, enfin, ça, c'est une fois par an, hein. C'est pas facile après, quand même.
Eh bien, à n'importe. Moi, je m'appelle.
Il pourrait y avoir, puisque vous êtes le président du syndicat des bouchers du Tarn-et-Garonne, il pourrait y avoir un petit sticker, par exemple, qui nous dit sur la porte du boucher, ah bah tiens, je fais partie de ces artisans bouchers, et ça existe, ça?
Ça n'existe pas, mais c'est une très, très bonne
idée. Il faut le mettre en place, monsieur le président.
Moi, je savais pas, par exemple, qu'il y avait des bouchers qui achetaient des sacs pré-emballés. Je pensais que le boucher allait traditionnellement acheter son cul de vache et le découper. Alors, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des vendeurs de poche, quoi.
Voilà. Il y a des vendeurs de poche. Alors, il y a une grande différence entre le vendeur de poche et le boucher abatteur. Il y a quand même des bouchers abatteurs dans ce pays. Moi, je ne le suis pas. Je n'ai jamais été formé pour acheter sur pied, comme on l'appelle, c'est-à-dire la bête vivante et l'amener à l'abattoir. Par contre, j'ai toujours été formé pour acheter pendu, c'est-à-dire en cheville, des carcasses entières à l'abattoir. Ce que je fais encore, pratiquement, pas tous les lundis matin, mais presque, je descends à l'abattoir. Ça permet de discuter avec mes fournisseurs et de choisir les carcasses qui sont pendues. Donc, mais c'est vrai que vous n'avez pas tort. À nous de nous remettre en question et de pourquoi pas lancer un logo. Maintenant, il faut voir la législation, qu'est-ce qu'elle nous autorise. Hein. Un logo pour les boucheries artisanales. Nous l'avions à l'époque de la maladie de la vache folle. Les bouchers qui faisaient de la carcasse et de race française, on avait le logo VDF.
Et vous pouvez le mettre, par exemple, sur les papiers d'emballage, imprimé sur vos papiers en même temps que votre marque, votre...
Vous avez une très très bonne idée. Moi, je vais en discuter vraiment, comme quoi, d'échanger avec d'autres personnes, et notamment les radios et la presse, ça donne des idées. Mais ça peut être une très très bonne... Maintenant, il y a quelques... Ça sera très très bien pour le consommateur. Parce que il y a trop de personnes qui, avec, comme vous dites, avec l'habit de lumière de boucher, se disent boucher, ne le sont pas forcément. Après, reste
à la profession, à rester vigilante. Jean-Marie Chaumont, dites-nous, vous, votre pièce préférée dans le bœuf, qu'est-ce que c'est?
Il n'y a pas de pièce préférée pour moi dans le bœuf. Comme je vous ai dit en tout début d'interview.
À manger.
Ouais, non, mais j'ai pas de pièce préférée. Moi, c'est en fonction de la maturité de mes morceaux, puisque le stock est variable, le débit de viande est variable, en fonction du taux de maturation, je choisis un morceau ou l'autre. Mmh. Bah, le bœuf, il y a des très bons morceaux, comme le paleron, qui est délaissé depuis des années. Un paleron bien rassis à bistec, c'est un morceau qui est savoureux, qui est tendre, et qui...
On le met dans le pot-au-feu, le paleron, non?
On le grille aussi, c'est délicieux.
On le grille, un paleron grillé d'énervé et bien rassis. Quand on dit rassis, il n'est pas forcément avarié. Il y a le point qui est parfait pour le consommer. Grillé, c'est excellent. Je vous invite même à venir en tant que radio, si vous voulez, le matin, vous venez, vous m'avertissez, je vous dirai, voilà, je mets à maturer du palourol, vous venez déjeuner avec nous, vous goûterez des morceaux soi-disant en pot-au-feu qui peuvent très bon être au Brésil.
Attention. Allez, cochon qui s'en dédie, on vient.
Attention, on va venir.
Palourol, c'est noté.
Le palourol, c'est noté.
On amène à boire.
La
justement, ça tombe bien, nous, on n'a pas le rond.
Ouais. On amène à boire.
Jean-Marie Chaumont, merci d'avoir été avec nous. Juste petite dernière question, parce que nous, on est assez amoureux de la côte à l'os. Combien de temps de maturation pour vous, une côte à l'os?
Une côte à l'os? Alors bon, moi, je conseille au minimum 21 à 25 jours de maturation pour une côte à l'os. Au minimum, c'est bien dit. Et en fonction de l'âge de la bête et du taux d'engraissement, on peut aller jusqu'à 60, 80. Il y a même des bouchers médiatiques qui vont jusqu'à 120 jours. Ils sont payés en fonction du nombre de jours le kilo de la côte à l'os. Après, chacun trouve son compte. Mais il faut au moins entre 20 et 30 jours de maturation pour...
Moi, je dis 40. Hein, 40, c'est bien.
Nous, on est entre 30, 40.
Ouais, 40, c'est bien.
Ouais. Merci. Entre 20 et 30, si la bête n'est pas vieille et qu'elle est en taux d'engraissement idéal, on a une côte à l'os de qualité.
Merci beaucoup Jean-Marie Chaumont. Rappelez-nous où se trouve votre boucherie à Montauban.
Au 405 avenue de Falguière, quartier Plaisance.
Merci d'avoir été avec nous.
On va manger, on pas le rond grillé.
Ah bah oui, on va
avec venir. Plaisir, vous m'appelez, avec plaisir, on le cale.
Ça marche, on a pour t'avoir.
C'est pratique, monsieur.
Là, la manière de se faire éviter. Hein,
on l'avait rencontré, quoi, il y a un an ou deux, sur une opération de séduction de l'interprofessionnel aussi.
Ouais.
On avait été. Opération cornette beef. Voyons.
Voilà. Oui.
Ah, bravo.
To beef or not to beef, that is the question.
Alors, peut-être une autre.
Une petite recette.
Tiens, on a parlé de la côte à l'os, ce serait bien que tu nous donnes ta recette de la côte à l'os.
Une côte à l'os. D'abord, déjà, on va la commander chez son boucher, c'est son artisan boucher, et on va la commander un mois avant. Donc lui, elle va avoir déjà une semaine, et il va nous la maturer, parce qu'on ne peut pas la maturer dans son...
La maturer, ça veut dire qu'il la garde dans sa chambre froide.
Voilà. On ne peut pas le faire dans son frigo. On peut pas aller acheter la côte à l'os aujourd'hui, et la mettre dans son frigo, et la sortir dans un mois, c'est pas possible. Il faut que, dans la chambre froide du boucher, ça va être à 2 degrés, entre 1 et 3 degrés, avec une hygrométrie contrôlée, et ça, dans son frigo, on peut pas le faire. Donc on va voir son boucher, et on lui demande, une côte à l'os, pour X personnes, et dans un mois ou un mois et demi. Et il va vous la faire maturer. Alors, c'est vrai que le prix monte avec le temps de maturation. Ce que moi, je fais avec mon boucher, c'est que je le lui achète au prix du jour. Et après, parce qu'elle va perdre, la côte à l'os peut perdre jusqu'à 30% de son poids en eau. Donc un kilo, après on se retrouve avec 600 grammes, à peu près 700 grammes. Donc là, le prix peut monter. Donc on l'achète, on la paye, on la prend un mois après. Il faut la tailler vraiment épaisse. Donc il faut 10 bons centimètres, entre 8 et 10 bons centimètres d'épaisseur. Hein, dans le train de côte, c'est-à-dire au
c'est
milieu.
Vrai, c'est vraiment épais, 10
centimètres. C'est vraiment très épais. On peut la faire soit au barbecue, soit au four. Si on la fait au barbecue, on fait une braise, une bonne braise, charbon ou bois comme on veut, et
tourner, retourner.
On n'arrête pas de tourner, retourner. On la fait croûter.
L'idée, c'est que ce soit croûté et qu'à l'intérieur, ça reste.
Voilà, le jus reste.
Mais chaud.
Mais très chaud. Voilà. Alors aujourd'hui, la mode est plutôt pas moins chaud et très longtemps. Moi, je préfère très chaud. Et bon, une côte à l'os comme ça, de 8 à 10 cm d'épaisseur, on va la faire cuire de chaque côté à peu près 8 minutes de chaque côté. 8-10 minutes de chaque côté maximum.
Oui, mais de chaque côté, c'est pas 4 minutes d'un côté, 4 minutes de l'autre.
C'est 8 minutes.
On a bien compris
que
c'est je tourne, j'arrête pas.
Elle va être cuite. Et surtout, ce qui est très important, c'est le temps de repos. Une fois que vous avez fait cuire, le temps de repos doit être égal au temps de cuisson.
Elle va être froide.
Non, ça se mange tiède à cœur.
Oui, mais alors il faut mettre un couvercle dessus.
Non, surtout pas de papier alu, parce que là ça va garder.
Si tu la couvres, elle va gonfler.
On peut la couvrir avec une cloche, mais surtout pas de papier alu. Ou alors on la laisse sur le bord du barbecue. Mmh. Si on la fait au four, c'est différent. Un four à 180 degrés, thermostat 6, on saisit la côte dans une poêle huilée. 3 minutes de chaque côté, on la croûte. Et ensuite on la passe au four à peu près 18 minutes. Et on la sort et on la laisse aussi 8-10 minutes reposer. Elle ne sera pas froide. Ça se mange tiède à cœur.
Voilà la recette de la côte à l'os pour deux par personne, selon le grilladin Pascal Olivier. Bon. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques instants.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Les rencontres Made in France, c'est ça qu'on a décidé de mettre un peu.
Made in viande.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Made in France.
Oh là 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 là.
C'est de la viande française.
La viande française, monsieur. C'est de la viande de Midi-Pyrénées, c'est de la viande du Tarn-et-Garonne, celle qu'on a vue aujourd'hui.
En plus.
Puisque nous sommes allés
made
visiter, si vous avez raté le début, l'exploitation de monsieur
Jean-Pierre Isolant.
Ah ben voilà, tu vois.
Jean-Pierre Isolant, qui est éleveur engraisseur à Mirabel,
et qui a aussi donc monté un atelier de découpe depuis quelques temps maintenant.
Viande occitane,
il distribue à quelques bouchers.
Et à Mirabel, on ne fait pas que de la prune.
Voilà.
Monsieur Cabos qui fait du prunon que l'on a vu.
Non mais et que je digresse. Comment veux-tu tenir cette émission?
Hein? Digresse.
Qu'est-ce que je déguste?
Digresse de bœuf.
Donc nous aurons au téléphone dans quelques minutes le caviste de la Fiole à Moissac. C'est à l'entrée de Moissac, à gauche. Je crois que ça s'appelle le quartier Sainte-Marie ou la place Sainte-Marie, là où il est situé. Pourquoi on va l'appeler lui aujourd'hui pour le vin de la semaine? Tout simplement parce que c'est lui qui a recommandé à un des gars qui organisait la journée là à l'atelier de la viande occitane, le petit Roubier, qui est un primeur biologique de l'Hérault et qui est assez drôlement bon.
Et sympa.
Ah ouais,
c'est très sympa,
c'est drôlement bien.
Ouais, c'est très, très bon.
Et donc
primeur,
on a dit qu'on allait passer un coup de fil à ce caviste là pour le vin de la semaine. Voilà, d'ici là, on repart en reportage. C'était quoi, sur le coup des midis, hein, quelque chose comme ça. On était du côté d'Albias à la ferme de monsieur Isolin.
Quel est votre morceau préféré?
Ah, moi c'est le steak, mais le steak pris dans le filet. Voilà.
Saignant? Saignant?
Ah, saignant, toujours saignant.
Mon morceau favori?
Oui.
Moi j'ai pas de morceau particulier, un bon pot-au-feu, je l'aime bien.
Ah, c'est bien.
Un bon pot-au-feu bien préparé ou une bonne daube? Oui. C'est très bon. Une entrecôte, je l'aime. Hein. Ouais. Une entrecôte bien épaisse, là, je l'aime. Mais par contre, il y a des morceaux, vous voyez, comme que les gens aiment beaucoup l'onglet, la hampe. C'est pas ma... Je le mange avec plaisir, c'est super tendre, mais moi j'aime qu'une viande me laisse quelque chose au palais, quelque chose, un goût, un onglet. Prenez plaisir à le manger parce que c'est tendre, c'est super tendre, mais question goût, c'est pas l'idéal. Enfin, je trouve, mais chacun...
Il faut qu'il y ait l'échalote avec.
Ouais. Oui, mais c'est, je trouve qu'il est dommage de mettre de la moutarde, du ketchup ou des trucs comme ça dans un super morceau de viande. Je trouve que c'est dommage. Une bonne entrecôte bien grillée, là.
Ça les poivres, je
pense.
Ça suffit.
Ça suffit. Voilà. Ça suffit. Et si elle est bonne, tu te régales.
La viande, elle est super bonne quand elle est salée et poivrée à point.
Oui.
Elle est vraiment super bonne. Et c'est là où on retrouve tout le goût de la bonne viande.
Et c'est là qu'on sait si, justement, elle a été à la fois bien élevée. Et bien maturé après par le boucher.
De toute façon, on sait très bien, mais c'est normal, c'est leur métier. Vous savez, dans des restaurants, je dirais grand public, quand vous allez manger de la viande, elle est souvent préparée. Je veux dire, avec une sauce, avec ci, avec là. Mais c'est normal, ils font leur boulot. Hein. Mais c'est pas là. Vous mettez n'importe quoi que de la viande, c'est de la viande. Hein? Voilà.
Bien souvent, c'est dans beaucoup de restos, c'est une partie des bas de gamme de viande qu'on utilise. Bon, quand on va à Albias prendre une entrecôte à l'Escoal d'Ouna, c'est vrai que là, on mange quand même de la viande.
Qui a du goût.
De la bonne viande.
Voilà. C'est dans ce type de restaurant que vous dites, c'est souvent de la viande d'importation. Mais d'importation qui viennent d'Allemagne,
de la Simmental.
C'est de la très bonne viande, mais bon, c'est de l'impôt, mais ça n'empêche pas qu'elle est très bonne. Hein. Parce qu'il faut savoir que nous, dans les bonnes bêtes là, si vous, en tant qu'ami, vous me dites tu me gardes une entrecôte dans cette bête là, je vais vous le faire, mais vous allez me gêner. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans une super bête, on les vend au boucher. Au boucher, on lui vend un arrière entier. Je casse un arrière, j'enlève le carré d'entrecôte, je dévalorise mon arrière. Après, je le gaspille. Alors, ça fait que dans les restaurants, grand public, eh ben, tu as de la très bonne viande, mais tu n'as pas le haut de gamme. Nous, on a quelques bouchers, vous allez le voir, où vraiment, ils travaillent de la super viande. Et ces bons bouchers, le prix ne nous jette pas l'argent, hein, mais ils ne t'embêtent pas sur le prix. Et ils t'embêtent si c'est inférieur en qualité. Là, mais c'est jamais assez bon. Quelques super bouchers. Et c'est cela qui nous intéresse.
Voilà, ça c'était une petite discussion qu'on avait ce midi sur les morceaux, nos morceaux préférés.
Et c'est des,
c'était Monsieur Isolin qu'on entendait sur la fin. Là.
C'est des coutumes, le fait de faire griller la viande, c'est relativement récent, ça a moins de 50 ans, puisqu'avant on mangeait surtout de la viande bouillie. La soupe, hein, des morceaux type macreuse.
Ou cru. Parce que moi ce que je préfère, tu vois, c'est le steak tartare.
Ah, c'est pas mal le steak tartare.
Bah oui.
Coupé au couteau.
Alors, je le demande à mon boucher, je voudrais un steak haché, hein, tout simplement, je le coupe pas au couteau, je vais pas m'embêter avec ça. Je lui demande un steak haché et puis je suis trop content d'y mettre dessus un jaune d'œuf. Qu'est-ce que je vais y mettre d'autre? Je vais y mettre des câpres, évidemment, des cornichons, du Worcestershire. Mon grand-père appelait ça le va chercher ta sœur.
Le va chercher ta sœur.
Parce que c'était imprononçable, le Worcestershire. Alors,
le Worcestershire. Et comme
très longtemps, quand on était petit, au moment où on mettait le couvert, il disait toujours, allez, va chercher ta sœur.
Ah, c'est pas mal, ça.
Et quand on était petit, on savait pas, mais papy, j'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur. On était cinq frères, mais tu vois, j'ai pas de sœur. Et alors, c'était le Worcestershire. Voilà. Donc, c'est ça que tu mets dans ton steak tartare avec de l'échalote. Et puis, c'est quasi tout, hein. Un petit peu de vinaigre. Et puis voilà.
Tu mets pas un petit peu de truc piquant, là, un truc vraiment qui pique.
Alors, moi, je mets du tabasco. Éventuellement du tabasco. Voilà.
Pas mal.
Et puis, ça va s'arrêter là. Mais pas trop, parce que moi, je trouve que le tabasco donne trop de goût.
Ah, ben, il faut pas, il faut doser.
Je préfère rester sur le Worcestershire, le vinaigre, et le cornichon, la capre, l'œuf.
Est-ce que tu le malaxes?
Alors, je fais, comme dans la pub quand on était petit, moi, je fais un petit volcan pour mettre l'œuf dedans et tout le massin. Ouais. Et puis après, je massacre tout ça, là. Je te fais un massacre à la
transbulga.
Un gloubi-boulga.
Est-ce que tu le bats longtemps?
Avec de la moutarde, j'ai dit qu'il fallait de la moutarde.
La moutarde
et une moutarde forte. Non, pas de ketchup.
Pas ketchup.
Moutarde forte, pas de ketchup.
Et tu le bats pas mal, est-ce que voilà.
Oh, jusqu'à ce que ça fasse un gloubi-boulga.
Voilà,
une
espèce
tout.
De truc blanchard. Et tu manges ça avec quoi? Frites?
Ouais, voilà, on va dire ça, frites. Mais généralement, c'est pour aller vite, moi, un steak tartare. Donc, je le mange avec rien. Je mange avec un morceau de pain.
Suite, là,
et ça me va bien.
Attention, ça c'est du gasoil dans la chaudière, parce que bon, le steak tartare.
Ah mais ça fait partie, c'est comme les huîtres.
Ah oui,
ça fait partie. Les lendemains de cuite,
ça remonte.
Tu t'envoies ça comme les huîtres et puis tout va bien.
Ah mais si tu manges ça le soir, tu tiens jusqu'à 3h du matin sans aucun problème, hein, en sautant partout.
Hein. Et ben voilà.
Oui.
Mais tiens, tu les vois tous aux guinguettes là jusqu'à 5h du matin où c'est Sergueïev, c'est parce qu'ils ont mangé des
tartares.
Ils ont
pas que ça, mais je pense qu'ils ont arrosé pas mal aussi, mais bon.
Tout à l'heure, nous aurons la recette de Gaël qui est le steak tartare,
le steak tartare cuit.
Le steak tartare cuit qui est donc un steak avec de la purée. Mais pour l'heure, on écoute un gars assez étonnant. Il s'appelle L'Udéal. C'est sorti de son album Pandore. Et le morceau, c'est Le Jardinier Japonais.
J'aurais dû chouchouter tes végétaux, arroser les fleurs, même si on pouvait inonder les pots avec nos pleurs. J'aurais dû débroussailler et tailler la roseraie, empêcher les épines de mordre dans ta peau porcelaine. J'ai jamais supplié autant que les hauts roses au vert, j'ai jamais supporté autant que les pots dans ma serre. J'aurais jamais le niveau,
t'auras jamais le niveau
d'un jardinier japonais. Il s'est fêlé le gyrophare qui sifflait dans mon cœur. J'ai tout découpé dans le noir au sécateur. Au matin, j'ai trouvé la rose qui gisait sur le sol. J'ai su après que son arôme était mon jamais supplié autant que les hauts roses au vert. J'ai jamais supporté autant que les pots dans ma serre. J'aurais jamais le niveau.
T'auras jamais le niveau
d'un jardinier japonais.
Voilà, vous en entendrez plus très bientôt sur CFM Radio de ce garçon-là, l'Udéal Pandore. C'est son troisième album, je crois, il l'a sorti en début d'année. Et il a un petit peu fait parler de lui, et puis depuis, plus rien, alors qu'il avait été carrément couronné par les Un Rock et autres FIP et France Inter, comme le nouveau Bachung. On l'aura dans PCV dans quelques temps, ce garçon. Jean-Marc Falga est avec nous, il est caviste à Moissac, c'est la cave de la Fiole, alors quartier Falga, monsieur Falga, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Comment s'appelle la place sur laquelle est votre cave à Moissac?
Alors c'est la rue, c'est le Faubourg Sainte-Blanche.
Ah voilà, la place Sainte-Blanche, Faubourg Sainte-Blanche. Voilà. Alors, on est content de vous avoir dans Qu'est-ce qu'on déguste ce soir. On vous appelle parce que dans le cadre de notre journée consacrée au Made in Viande, là, on a dégusté à l'atelier de découpe de Monsieur Issolan, viande occitane,
Jean-Pierre Issolan,
le petit Roubier, et c'est vous qui leur avez proposé ce vin-là, qui est un primeur de l'Hérault, et on l'a trouvé rudement bon.
Eh ben, je vous fais pas dire. On y a goûté aussi.
Alors voilà, du coup, on s'est dit, mais tiens, on va passer un coup de fil à Jean-Marc Falga. Présentez-nous déjà votre cave, s'il vous plaît.
Eh ben, moi, je suis caviste à Moissac depuis 1985, donc ça va faire bientôt 30 ans. Et voilà, je fais un peu de vin au détail, en vrac, en bouteille, en fait, tout ce qui est champagne, alcool, et ainsi de suite. Voilà.
D'accord. Et donc, bon.
Les régions préférées?
Oui, voilà.
Alors, moi, mes régions préférées, justement, c'est le Languedoc, parce que je trouve que c'est des vins qui ont beaucoup de caractère, de parfum, et voilà.
Ben, nous, c'est pareil.
Non, on aime bien aussi.
Ah, nous,
alors
bien.
Là, on a été vraiment très surpris parce qu'on a trouvé donc.
Où est sorti le petit Roubier d'ailleurs.
Et ouais. Alors parlez-nous de ce vin
bio,
vin nouveau.
C'est un producteur en petite poule de Pinet avec qui on travaille, quoi, qui est sur la région de Pinet à côté de l'étang de Thau. Et donc, il fait aussi des petits vins de pays comme celui-ci, qui est à la base de cépages Syrah et Merlot. Et en bio, voilà. Donc, avec beaucoup de fruité, de parfum. Il nous a beaucoup plu, donc on le propose à notre clientèle, et voilà.
Ah oui, vous le vendez quel prix, ce vin?
Alors, 4,50 la bouteille, et on fait 10% au carton.
C'est tout à fait raisonnable.
Oh non, mais c'est clair. Franchement, il est super bon. Et quand on va être sur les vins nouveaux, tout ça, là, c'est pour un vin nouveau. Il a pas la typicité des vins nouveaux qu'on boit d'habitude. Ouais, là,
c'est pas style Beaujolais.
Mais justement, les Beaujolais, ce sont essentiellement des cépages gamés. Donc c'est une autre approche, quoi. C'est d'autres parfums, quoi. Voilà. À ce côté très fruité et très garrigue, quoi, on va dire. Donc,
vous avez le Picpoul, le blanc qu'ils font, que ce vigneron fait. Vous l'avez à votre cave?
Oui, on a tous, on a les Picpoul blancs et on a certains Picpoul qui viennent de vieilles vignes, qui sont très goûteux aussi, quoi, plus qui sont très travaillés, quoi. Voilà.
Eh bien, d'accord. Alors. Pour nous, c'est celui-ci, le vin de la semaine, le petit Roubier, et qu'on peut trouver donc à la cave La Fiole à Moissac, Faubourg Sainte-Blanche. Mais vous en avez peut-être un autre à nous proposer pour ce week-end.
Alors pour ce week-end, en primeur, vous voulez dire?
Comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Non, en ce moment, on a un très bon Gigondas qui est en bio aussi. Voilà. Est excellent, mais c'est un vin qui est beaucoup plus puissant, de 2010. Et plus approprié sur des viandes ou des fromages de caractère.
Donc le vigneron de ce Gigondas, c'est qui?
Alors c'est le domaine Fontavin, c'est la famille Chauvet, et voilà.
Mais ça vaut combien la bouteille?
Ah là, on est sur des vins qui dépassent les 10 euros, quoi. On est plus sur 12 euros, voilà.
D'accord.
Bon, ça se voit plutôt avec une grillade, des grillades d'agneau. Il fait encore beau, donc on peut encore griller.
C'est ça, c'est le vin de ce week-end, on peut se faire ça ce week-end, on se fait un petit plaisir avec un vin à 12 euros, pourquoi pas.
Il fait encore beau jusqu'à mardi, donc
Gigondas, qu'on va chercher la petite fiole à Moissac.
Ouais, chez Jean-Marc Falga, et puis vous y allez de la part de CFM, tiens.
Voilà. Et vous boirez un coup à l'œil.
Voilà.
C'est super. On va venir vous voir, on viendra chercher du pic-poule, pic-poule de Pinet.
Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous, à bientôt.
Attendu.
Au revoir.
Au revoir.
Eh oui, mon gars. Il y a des belles caves partout en Tarn-et-Garonne.
Ça fait 30 ans qu'il existe, on n'en avait jamais entendu parler, comme quoi.
Ah, si, si, moi je le connaissais quand même.
Ah oui.
Ah ben moi je suis
bah,
de Moissac.
Tu n'en as jamais parlé.
Mais non, mais je ne vais pas tout te raconter de ma vie. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Parce que le temps change. Le temps change. Et d'ailleurs, on repart du côté de chez monsieur Issolin, qui nous parle justement du temps où sa grand-mère, elle, faisait du gavage à sa façon. Et c'est sa façon à lui de nous expliquer qu'il est encore un artisan.
Ma grand-mère égavait des canards. Elle passait, excusez-moi l'expression, elle passait le canard entre ses cuisses là pendant 3 semaines avec un gavoir comme ça. Aujourd'hui, il y en a qui font encore comme ça. Et puis vous avez des canards dans 8 jours, ils sont gras, ils sont prêts à tuer. Le magret, ça ne va pas être le même. C'est tout. C'est tout. Vous avez 2 types de viande. Vous avez la viande artisanale, que j'appelle artisanale, et vous avez la viande industrielle. Ça ne peut pas être la même. Un poulet, vous allez chercher. On a des, nous, beaucoup de nos clients bouchers, en volaille, ils se servent chez Mille à Saint-Antonin. Je suppose que vous avez entendu parler. Mais, bon, il va faire des poulets qui vont avoir une qualité de viande. Merci. Bonne journée. Non, c'est nous qu'on vous remercie. Bonne journée. Ça ne va pas être le même poulet qui va être dans un élevage et qui va avoir 60 jours, qu'on va lui avoir mis de l'aliment à volonté là, et qui va pousser comme un champignon. Là. La viande, ce ne sera pas la même. Et bien, le bœuf, c'est pareil. C'est tout.
Il faut prendre le temps.
Ben oui. Un veau. Un veau qui va avoir passé 4 mois, 6 mois à téter sous le merde, sous le hopi de la vache, là, qui tous les matins, l'éleveur, et tous les soirs, il va l'avoir fait téter. Et un veau industriel, qu'on va lui avoir donné de la poudre de lait, et même pas de la poudre de lait, pour que ça coûte moins cher, on va lui avoir veillé un substitut de lait. Ça sera pas la même viande.
Voilà les paroles prises ce midi de Jean-Pierre Issolin devant son atelier de découpe à Viande Occitane à Montauban dans la zone Alba Sud. Je l'ai vu à ce moment-là devant un parterre de clients, de politiques et de clients de politiques et d'éleveurs et même de grand public et de journalistes qui étaient là. Je l'ai vu être très ému. Au moment de faire monter toute son équipe, ils se sont retrouvés, il les a fait monter les uns derrière les autres. Ils étaient à la fin une quinzaine, y compris sa femme, y compris son associé, y compris
sa fille,
son gendre qui n'est pas de la partie, mais qui l'a aidé pour l'occasion. Et moi, je l'ai trouvé très très ému ce matin. Il était, je ne sais pas s'il a pas mis une petite larme quand
il
même.
Il a dû mettre une petite larme.
J'ai l'impression qu'il a mis une petite larme. Et c'est vrai qu'il y avait tout le monde. Y compris son équipe de découpeurs qui après pour l'occasion était au plan de chat
pour faire
griller ce qu'on a pu déguster juste avant qu'ils fassent griller. On les a rencontrés et on a rencontré
Jean-Pierre. Moi, il s'appelle Jean-Pierre.
C'est Jean-Pierre aussi. Ils s'appellent tous Jean-Pierre. À Viande Occitane. C'est le chef de découpe.
Chef d'équipe.
Bonjour, monsieur Kiefer Jean-Luc, chef d'atelier des Viandes Occitanes.
Vous êtes combien de découpeurs à l'atelier ?
3 découpeurs, un désosseur, un emballeur.
C'est des métiers qui s'apprennent au bout de combien de temps, ça ? Découpeur, désosseur ?
Moi, j'ai appris en apprentissage, 3 ans. Et après, il faut compter 3 bonnes années après l'apprentissage, pour connaître le métier.
Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par ces métiers ou c'est des métiers qui sont en perte de vitesse ?
Beaucoup en perte de vitesse. Hein. Très peu, on trouve très peu de jeunes.
Hein. Et comment on va faire alors pour manger de la viande bientôt ? Il y a des robots découpeurs ?
Presque à savoir. Question piège là.
Pourquoi ça ne les intéresse pas les jeunes aujourd'hui ?
Vis-à-vis de moi, c'est un métier qui est un peu difficile par rapport à eux, point de vue les médias et tous les... Les heures qu'il faut faire, on ne les compte pas.
Parce que moi, on m'a dit que c'était justement dans les métiers de la viande, que c'était finalement des métiers qui étaient plutôt bien payés. Sauf qu'effectivement, il ne fallait pas compter ses heures éventuellement. Quoi.
Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Il ne faut, faut pas compter les heures. Hein.
Une journée pour vous, c'est, ça démarre à quelle heure, ça finit à quelle heure?
Pour nous, c'est 5 heures et on peut finir à 14 heures, 15 heures. Ça dépend après le travail qu'on a sur place. Hein.
Donc vous recevez les commandes, vous avez les, on a vu tout à l'heure, vous recevez les commandes et vous allez découper à la demande. Je vais dire une, poser une question comme ça, c'est combien de temps il faut pour découper un demi-bœuf ou une demi-vache?
Pour nous ici actuellement, en trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, un demi-bœuf il est découpé. Traiché, désossé.
Oui, donc ça, fait, nous, ça fait combien un demi-bœuf? Ça va faire quoi, 300 kilos de viande?
De viande, ouais. Un demi, non. Ah non. Non, non.
Avec les
en carcasse, il fait déjà 380, comptez la moitié, 180, non, vous sortez 150 kilos de viande.
150 kilos de viande en trois quarts d'heure, prêt à consommer.
Voilà le chef de découpe de l'atelier Viande Occitane.
150 kilos en trois quarts d'heure, sur la table.
C'était les rencontres Made in Viande. Partez à la découverte des hommes et des femmes d'une filière d'exception. C'est ce qu'on a fait, nous, on a relevé le défi, on l'a fait.
C'était vachement bien.
Et c'était drôlement bien.
Ouais,
on a été super bien, super bien accueillis, on était très très contents. Voilà d'où vient ton steak haché, mon cher.
Mais il y a des gens qui aiment pas le tartare. Alors on le fait cuire. Bon, on va surtout pas chez le boucher, on va chez Auchan ou n'importe où. On prend des steaks en sachet, de la purée, pareil. On fait ça, le steak on peut le faire à la poêle, la purée au micro-ondes.
Tu le penses sachet quand même ton steak.
Heureusement, oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Oh. Et donc les enfants sont contents. Alors par contre là, comme on avait une petite occasion spéciale aujourd'hui, c'est à la fois Halloween et l'anniversaire, les 75 ans d'un vieux monsieur de la bande dessinée qui s'appelle Batman. Donc créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, Batman apparaît pour la première fois dans le comic book Detective Comics numéro 27, donc en 39. Alors, bien que ce soit le succès de Superman qui a amené sa création, il se détache un peu du modèle puisque lui, il n'a pas de pouvoir surhumain. Alors, on connaît ensuite le succès de l'homme chauve-souris, des séries télé, de nombreuses figurines. Mais en ce jour d'Halloween, je voulais en profiter pour faire une petite recette, alors qui s'appelle donc aile de chauve-souris. Alors, bien évidemment, on va pas aller chercher ces pauvres chauves-souris dans nos régions. Il y en a pas mal. Laissez-les tranquilles.
Oui, oui, c'est interdit. Surtout, elles sont protégées.
Oui, en plus. Alors d'ailleurs, je voulais féliciter aussi les gens qui protègent les chauves-souris pour le coup. Alors, plutôt, vous allez chercher du poulet, 1,4 kg d'ailes de poulet, 125 ml de ketchup, 60 ml de vinaigre de cidre, 30 ml de sauce soja, 30 ml de mélasse, 2,5 ml de sauce tabasco. 2 gousses d'ail hachées finement, 1 ml de colorant noir en gel, ce qui donnera l'aspect chauve-souris, du sel, du poivre. Alors pour la préparation, vous disloquez les deux jointures de chaque aile pour éviter qu'elles se rétractent à la cuisson et ainsi créer l'allure de chauve-souris. Vous réservez pour la marinade dans un grand plat en verre, vous mélangez tous les ingrédients, vous ajoutez le poulet, vous l'enrobez bien de la marinade, vous couvrez 2 heures, enfin vous réfrigérez 2 heures voire toute une nuit, c'est bien. Placez la grille au centre du four, préchauffez le four à 190 degrés. Alors pour nos auditeurs américains, c'est 375 degrés Fahrenheit. Vous tapissez une plaque à biscuits, de papier d'aluminium et d'une grille. Vous étalez les ailes de poulet sur la grille, le dessous de l'aile sur le dessus. Vous salez, vous poivrez, vous cuisez tout ça au four pendant 20 minutes. Vous retournez les ailes et badigeonnez de marinade. Poursuivez la cuisson pendant environ 25 minutes. Pour les ailes croustillantes, vous terminez la cuisson sous le grill au besoin. Après, vous dégustez en lisant un petit Batman, et voilà, ça sera très bien pour cet Halloween.
Ça me fait penser que dans ces rencontres Made in France, il y avait des tableaux...
Made in Viande,
je vais y arriver. Il y avait des tableaux aujourd'hui où, évidemment, on a beaucoup parlé de bœuf, nous, parce qu'on aime le bœuf, mais il y avait aussi le porc, le poulet, l'agneau, etc.
Le veau, l'agneau...
Etc. Voilà, il y a tout ça hein, qui fait partie de... C'est de la viande, hein.
Voilà. Ben oui.
Au revoir, il me dit, Aurélien, on est en retard.
Comment ça, on est en retard?
Eh ben oui, on est en retard.
Bon, ben, beef or not to beef, les gars.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste?
Semaine prochaine.
La semaine prochaine, on sera en direct du Salon du Chocolat du Kiwanis. Ne ratez pas ce gros événement tout le week-end prochain.
Chocolat et macarons.
Chocolat et macarons, ça va être bien.
Hein. On sait bien, chaque année, il n'y a pas de raison que ça change.
Bon week-end, à la semaine prochaine.
Salut à tous, ciao.
Bon week-end.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.